Avant ça, la mort d'un adolescent de 14 ans à Coignières dans les Yvelines, mort samedi soir après une rixe entre bandes de quartiers rivaux, tué à coups de marteau par un autre jeune homme à peine plus âgé, 16 ans, et qui s'est rendu aux policiers. Comment expliquer cette violence? Comment stopper cette spirale-là? On va en parler avec vous, Cécile Doré, grand reporter pour les justices à BFM TV. Avec vous, Bruno Pomard. Merci d'être là. Bonsoir. Ancien instructeur opérationnel du RAID, auteur de Flic d'élite dans les cités aux éditions Anne Carrière. J'insiste sur le titre parce que vous vous engagez depuis des années pour lutter contre cette violence-là. Cécile, élément de contexte, samedi soir, donc, il y a une soirée MMA, arts martiaux, je vais résumer ça comme ça, qui est organisée à Coignières. Dans la salle, ça se passe bien. Le problème, c'est à l'extérieur de la salle.
Oui, dans cette salle se trouvent 300 personnes, dont des familles qui viennent assister effectivement à cette démonstration de MMA. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y ait effectivement des jeunes qui commencent à se bagarrer aux alentours de cette salle. Ce qu'on comprend, c'est que deux jeunes ont essayé de rentrer dans la salle, d'autres sont sortis. Et là, en quelques minutes, tout a dégénéré. Et effectivement, un jeune de 14 ans est tué quasiment sur le coup de coups portés à la tête. Un jeune s'échappe, il y a même des personnes sur place dans la salle qui tentent de l'enfermer dans une pièce, appellent la police immédiatement, mais au moment où la police arrive, il s'est échappé. Et là, les constatations commencent et ce coupable présumé viendra se dénoncer le lendemain, donc dimanche après-midi. C'est un jeune de 16 ans qui se rend au commissariat d'Argenteuil et qui se dénonce. Ce qu'on comprend en fait, c'est que ce sont deux bandes qui se sont affrontées ce soir-là, des jeunes issus d'une cité de Maurepas et d'autres issus d'une cité de Coignières. Celui qui est décédé est issu de la cité de Maurepas. Et celui qui vient de se dénoncer est issu de la cité de Coignières. Historiquement, ce sont des bandes rivales. Ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu d'incident entre ces deux groupes de jeunes. Et là, la police essaye de tirer au clair les responsabilités de chacun.
On va revenir là-dessus. On entendra d'ailleurs dans un instant le témoignage de la mère de Djibril, le garçon de 14 ans qui a été tué. Bruno Pomard, ce que vient de raconter Cécile, vous l'avez entendu des centaines de fois, ces rivalités entre quartiers dont on ne sait plus à la base pourquoi elles existent.
Oui, d'abord, ça existe depuis très longtemps, vous avez raison de le dire. Moi, ça fait 30 ans que je suis président de l'association Red Aventure. J'ai travaillé 10 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonne, dans les années 90, hein, pas d'aujourd'hui. Et il y avait déjà des rixes, des affrontements avec la police, tout ce qu'on connaît actuellement. Je pense que les élus ne prennent pas assez conscience de la responsabilité qu'ils ont, parce que permettez-moi de faire juste une parenthèse sur, j'ai vu aujourd'hui, dans les sondes, 176 élus qui se sont levés contre l'État en disant qu'il fallait plus de moyens, plus de policiers, plus de vidéos, plus. Je pense qu'ils n'ont rien compris. Voilà, je vais vous dire exactement ce que je pense parce que je suis en colère ce soir. Parce que vraiment, je me bats, moi, pour ces sujets-là et j'y travaille. Je vais travailler le mois prochain, d'ailleurs, avec deux villes différentes pour travailler sur ces problématiques de RICS. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, il y a quelques temps, il y a une loi qui a été votée sur la sécurité globale. C'est quoi? Cette loi, c'est un travail transversal avec la police nationale, la police municipale, les bailleurs sociaux, les élus, tous ceux qui représentent l'État et les institutions. Et malheureusement, je m'aperçois que les élus n'ont pas encore compris de la nécessité d'avoir sur le terrain, et ça je vous le dis, j'ai quand même un peu d'expérience, donc à un moment donné d'entendre, même sur les plateaux de télé, souvent les spécialistes ou les chroniqueurs ou je ne sais quoi, vous expliquer qu'il faut toujours plus de policiers, plus de prisons, plus de sanctions.
Il faut plus de quoi, Bruno Pomard?
Il faut plus de fonds, il faut plus de prévention. Voilà ce qui manque. Moi, lorsque j'ai commencé à Corbeil-Essonnes, vous savez, j'avais des équipes. Et c'est factuel, ce que je vous dis là. C'est pas inventé, c'est pas de la recherche. C'est tout simplement, j'avais 15 éducateurs, je travaillais sur les quartiers des Tarteries, qui était un quartier des plus difficile qu'on connaisse. Ben, je veux vous dire, j'ai atténué totalement les rixes entre bandes, les affrontements avec les policiers, qui avaient quasiment tous les deux jours. Et je peux vous assurer que pendant 8 ans, ben, il n'y a quasiment rien eu. Donc il y a un travail de fond à mettre en place et ça revient aux élus de le mettre en place en mettant avec les bailleurs sociaux des moyens pour accueillir des équipes d'animateurs. Les associations ont un rôle d'amortisseur dans ces quartiers. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Et on attend tout de la police. On a perdu l'avance.
Mais il y en a eu plus, non? En 2021, justement, en Essonne, il y avait eu. L'Essonne, c'est un des départements qui est le plus concerné par ces affrontements.
Tout à fait.
Sous votre contrôle, il y avait eu des décès. Il y avait eu Gérald Darmanin qui avait fait un plan et qui avait justement, comme vous le dites, remis 300 éducateurs, 300 assistants sociaux, qui avaient relancé les cellules d'écoute également, les cellules de veille, notamment sur les réseaux sociaux qui amplifient grandement ces phénomènes de bande. C'était il y a un an. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ça n'a pas d'effet ou qu'il en faudrait plus, davantage ?
Il faut multiplier les dispositifs, mais ça revient à chaque maire. Vous parliez de Gérald Darmanin, je veux bien, mais ça revient à chaque maire de mettre en place des dispositifs. La police parisienne, par exemple, a mis les brigades territoriales de contact en place. Ça sert à quelque chose, c'est utile, c'est évident, pour faire de la recherche, pour anticiper ces problématiques. Regardez ce qu'a fait le maire du 17e, Boulard. Il a réagi super bien. Malheureusement, après, vous allez me dire, il y a un mort. Mais il y a des médiateurs qui sont venus directement sur le terrain pour éviter que cette situation s'enflamme, ces situations s'enflamment. Donc il y a un vrai travail à faire de proximité. Et si on veut atténuer ces problématiques, c'est anticiper, faire du renseignement en amont, avec l'éducation nationale qui doit jouer le jeu aussi, hein, qui ne doit pas faire de la rétention d'informations lorsqu'il y a des tensions. Et je peux vous assurer qu'on peut trouver des solutions. N'attendons pas tout de la police nationale. On a perdu d'avance, je vous le dis.
En revanche, il faut tout de même des moyens. Parce que ce dont vous parlez, ça coûte quand même cher aussi. Quand on parle de s'il y a 300 éducateurs, ce sont des moyens et ça coûte très cher. Sinon, nous ne travaillerons pas bien.
Mais ça revient aux élus. Les élus de proximité, ce que j'appelle les élus, comme moi, je suis maire d'un petit village, j'ai pas ces problématiques, évidemment. Le maire d'Evry, le maire de Courcouronne, le maire de Montrepas, de Coignières, qui vous voulez. À un moment donné, on met de l'argent sur l'emploi d'éducateurs PJJ ou tout simplement de médiateurs. Ça coûte de l'argent, vous avez raison. Mais je peux vous assurer que les associations, pour moi, ont un rôle d'amortisseur. Comme on n'a plus de réseau associatif fort sur le terrain, eh bien, ces problématiques vont se rencontrer de plus en plus et la police ne pourra rien faire.
Je reviens à ce qui s'est passé, donc, samedi soir, à Coignières. Ce jeune Djibril, 14 ans, tué à coup de marteau, nos confrères d'RTL ont recueilli ce soir le témoignage de sa mère, évidemment bouleversé.
Il y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains. Tout le monde l'aimait, Djibril. Il y a plein de mamans du quartier que je connais pas. Je connaissais votre fils. Djibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou, toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur énorme. Il était tellement gentil. Toujours à taquiner ses sœurs, toujours à me taquiner. Et puis surprotecteur, c'était l'homme de la maison. Et franchement, il prenait soin de tout le monde, surtout de moi. C'est horrible.
Cécile Doré, on entend, pardon, ce sens, ce témoignage qui est absolument bouleversant. Vous disiez, cette rivalité, on la connaissait. Mais ça avait été plutôt calme ces derniers temps ?
Oui, ça avait été plutôt calme. Les services de police, en tout cas, considéraient que depuis des mois, il n'y avait pas eu d'affrontement ouvert entre ces deux bandes, considérées comme des bandes rivales. Djibril, en particulier, n'était pas quelqu'un connu des services de police. Il avait été entendu dans une affaire, mais en tant que témoin assisté, et il n'avait jamais eu de charge retenue contre lui. C'est pas quelqu'un qui avait un casier judiciaire. Encore une fois, il va falloir tirer au clair les responsabilités de chacun. Ce qu'on sait, c'est que ce jeune de 16 ans qui s'est dénoncé et qui est actuellement en garde à vue, il dit qu'il a agi pour se défendre. Voilà ce qu'il utilise aujourd'hui comme élément pour expliquer ce geste. Il va sans doute y avoir l'ouverture d'une information judiciaire demain à l'issue de sa garde à vue, ce qui prouve que les faits sont complexes et qu'il faudra sans doute de plus amples auditions, d'autres témoignages, peut-être même d'autres interpellations pour comprendre encore une fois comment cette situation a pu dégénérer en une minute, deux minutes, trois minutes. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé extrêmement vite.
Bruno Pomard, les jeunes que vous côtoyez, que vous encadrez, qu'est-ce qu'ils vous disent de cette violence ? On est évidemment à chaque fois sidéré par la violence, par le geste violent à coups de marteau. Qu'est-ce qu'ils vous disent de cette violence-là ?
Il y a une banalisation totale de la violence. Moi, j'ai connu il y a 20 ans une violence qui s'arrêtait, je dirais, à des coups de pied, à des coups de poing, à des gifles. Et là, maintenant, on a passé un cap, c'est des coups de couteau et des coups de marteau, vous dites. Donc, il y a vraiment une évolution, évidemment. On se rend plus compte, évidemment, de la portée des gestes. Et là, il y a un vrai travail, encore une fois, éducatif à mener sur ce sujet-là. L'éducation, c'est la famille, à la base. Mais si la famille ne peut pas assumer, il y a des rôles d'acteurs associatifs qui sont capables de faire ça. Mais on voit que c'est totalement banalisé. Et ce qu'on a vu à Coignières, mon repas, si on avait anticipé un petit peu avant, s'il y avait des médiateurs qui voient, on se rend compte, attention, il y a des gens de terrain qui sont très bons pour ça. Nous, on le ressent en allant ponctuellement sur les endroits, voir comment ça se passe. Donc, je veux dire, c'est pas sorcier à trouver une solution. Le seul problème, c'est qu'on n'anticipe rien et c'est qu'à chaque fois, évidemment, on est confronté à ce type de situation qu'on n'arrête pas, en fin de compte.
Bonsoir Yann Lamotte.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous arrivez à l'instant. Merci d'être là. Vous êtes éducateur. C'est vous qui organisiez la soirée, qui avez organisé la soirée en marge de laquelle ce drame a eu lieu samedi soir. On le disait tout à l'heure, vous organisez cette soirée MMA qui se passe bien à l'intérieur. À quel moment est-ce que vous comprenez que c'est en train de déraper ?
Alors, bonsoir, désolé pour mon retard. Donc c'est important de dissocier vraiment les deux éléments, tout simplement parce que ça n'a absolument rien à voir avec ma soirée. C'est le drame qui arrive. Il arrive, il aurait pu se dérouler devant un établissement scolaire, à la sortie d'un collège, à la sortie d'un cinéma, d'un bar, de n'importe quel endroit. En tout cas, vraiment, c'est pas des gens qui ont participé à la soirée, ni dedans, ni de. Enfin, voilà, c'est des gens qui sont venus et qui se sont croisés devant. Alors, à quel moment je m'en rends compte? Nous, la soirée se termine. On vient de faire le 11e combat. Il s'est très bien déroulé. Le speaker annonce la fin du combat et vient pour remercier. Il doit me passer le micro au moment où je dois faire les remerciements aux sponsors, aux joueurs, aux copains. On fête les 25 ans du club ce soir-là. Ça fait 25 ans que je fais ça là et que je l'utilise comme outil éducatif, en plus, pour aller dans le sens de monsieur. Et donc, au moment où je prends le micro, un agent d'accueil vient me voir en me disant « Écoute, Yann, il y a un problème dehors. On se fait tirer dessus au mortier. Il y a une bagarre. » Pour moi, c'est une blague, en fait. Je me dis « Ouais, c'est 25 ans. Les copains m'ont préparé des feux d'artifice. Il y a un truc. » Donc, je sors assez détendu sur le... Sauf que non, en fait, c'est pas une blague. Alors, il y a plus de mortier quand moi je sors. Il y a surtout un enfant qui est à terre et des gens qui sont autour pour essayer de faire en sorte que le... Enfin, en tout cas, qu'ils l'ont mis en PLS. Enfin, voilà, il y a du monde autour de ça.
Qu'est-ce que vous faites, vous, à ce moment-là?
Alors, dans un premier temps, déjà, je vais au chevet de l'enfant avec les adultes qui sont déjà présents. Et moi, je prends le pouls. J'ai pas de pouls. Et au moment où j'ai pas de pouls, voilà, là, tout s'agite. Et la Croix-Rouge qui est sur place avec nous, étant donné qu'on est sur une organisation encadrée par tout un tas de règles. On a la Croix-Rouge, on a deux médecins. Voilà, donc tout le monde se précipite. On va chercher le défibrillateur. Enfin, tout se met en place pour démarrer. On est nombreux à le masser, à prendre à tour de rôle en attendant les pompiers jusqu'à ce que les pompiers prennent le relais.
Vous connaissiez Djibril ?
Djibril, je ne connais pas. Par contre, je connais très bien le papa depuis très longtemps. C'était déjà un adhérent chez moi avant d'être un ami. On est ensemble à la crèche, on a nos enfants à la crèche. On s'est croisés ce soir encore à 18h en allant chercher nos enfants. C'est un papa qui est très digne aujourd'hui. J'ai énormément de fierté pour ce monsieur.
On a entendu la maman juste avant que vous arriviez.
Ouais, alors je connais pas la maman moins. Je suis plus en relation avec le papa, mais c'est un papa très très digne. Dans l'épreuve qu'il vit, je le vois très 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 solide. Et on a passé l'après-midi ensemble hier dans le quartier des Friches avec d'autres adultes.
Pour essayer d'apaiser les tensions.
Oui, tout à fait. En fait, c'est la première chose à 5h30 dimanche matin quand je rentre de la soirée, une fois que tout a été que la police a fini de faire son travail. En fait, j'appelle un des grands qui était là et qui au départ avait amené des jeunes. En fait, il a fait une démarche éducative en amenant des jeunes pour une sortie éducative. Et je dis, écoute, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on parle aux jeunes. On peut pas attendre qu'il y ait une surenchère. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on se donne rendez-vous le lendemain et on y va. Et en fait, il y a des grands de Coignières, de la commune de Coignières, et des grands des Friches. On se retrouve tous là. Donc, on a une centaine de jeunes avec nous.
On va reparler de la rivalité entre ces deux cités. On va reparler dans une seconde, Cécile.
Oui, parce que l'enjeu aussi, quand il y a malheureusement un drame de cet ordre-là entre des bandes rivales, pour la police et pour les quartiers, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vengeance derrière, qu'il n'y ait pas d'acte 2. Et c'est vraiment ce que redoutent le plus les enquêteurs qui travaillent sur ce type de drame. Et on ne peut pas d'ailleurs négliger le fait que s'il s'est dénoncé, ce jeune de 16 ans, c'est aussi pour se protéger. C'est sans doute aussi une de ses motivations, c'est qu'il y a toujours un risque quand il y a des groupes comme ça qui s'affrontent, et bien que certains soient tentés de d'opter pour une forme de vengeance. Et c'est pour ça que le travail éducatif est essentiel aux côtés du travail des enquêteurs.
Yann Lamotte, cette rivalité dont on parle depuis ce week-end, vous la connaissiez, cette rivalité entre ces deux bandes, entre ces deux quartiers ?
Je l'entends énormément à la télé et en réalité, je la découvre à la télé. J'habite depuis 46 ans à l'endroit. C'est pas compliqué, j'y ai né, j'ai grandi, j'étais directeur du service jeunesse, directeur du service des sports à Coignières, j'ai grandi à Morpa, je suis conseiller municipal à Morpa. Je découvre cette violence. On a eu un mort en 2003. Et un mort violent en 2003. Il s'appelait Alim Moustatif, il est décédé d'un coup de couteau. Et son frère était avec nous hier pour aller discuter avec les jeunes. Les rivalités entre groupes de jeunes, je pense que si on regarde l'histoire de France, ça a toujours existé. Les guerres, on appelait ça des guerres de clochers. On se réunissait au bal, hein, et puis en fin de bal, ça castagnait. Je crois que je suis arrivé en cours de route, mais il me semble que vous parliez de ça.
Ouais.
On est sur la même chose, et là, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec ce qui s'est passé samedi soir. Samedi soir, on a deux groupes de mômes, et c'est des groupes de mômes, et je ne parle pas de bandes, moi, je parle bien de groupes de mômes, parce qu'on n'habite pas des quartiers violents. Le taxi, en venant me chercher, me dit, mais attendez, je ne comprends pas. Il y a de la verdure partout, c'est pas. Oui. On n'a pas de bande chez nous, on a des groupes de jeunes, et je pense qu'on a deux groupes de jeunes, et dont un groupe là qui arrive et qui font une connerie monumentale, mais qui est de l'ordre de la bêtise, pas de l'ordre du... Ils ne sont pas en train de défendre un territoire.
Pardon, on parle quand même, je reviens à ça, désolé, pour de coups de marteau.
À
16 ans, là-dessus. De tuer quelqu'un, un autre gamin de 14 ans à coups de marteau.
Oui, complètement. C'est pour ça que je parle de connerie monumentale.
On est au-delà de la connerie monumentale. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça que j'essaie de nuancer, parce qu'il y a, on est sur un drame. Voilà, quel que soit le truc, on a un gamin de 14 ans qui est décédé. Donc c'est un drame. Mais je pense que dans la tête de l'enfant, au départ, parce que c'est un enfant qui met les coups de marteau, il est dans la bêtise d'enfant. Il faut qu'il soit jugé pour ça. Et voilà, il mérite d'être jugé comme pour ce qu'il a fait. Et parce que c'est impossible que ça recommence. Il ne faut pas que ça recommence. Mais je pense réellement que dans sa tête, c'est un enfant. Il n'a pas encore le schéma structurel, intellectuel, pour agir et réfléchir comme un adulte. C'est vraiment différent. J'ai travaillé longtemps en prison. Enfin, pas longtemps, j'ai travaillé en prison, notamment sur la prévention de la radicalisation et sur d'autres sujets. J'ai rencontré des gens, et notamment un monsieur qui avait tué sa femme à coup de marteau. C'était prémédité, c'était construit. Il y avait, on n'était pas sur un gamin qui
mettait
la poche pour faire le loup.
Bruno Pommard.
Oui, c'est un constat. Bon, le monsieur, évidemment, n'est pas concerné, mais c'est vrai que quand on voit ces deux secteurs, Maurepas, Coignières, effectivement, c'est pas les pires endroits de l'Île-de-France qu'on peut connaître. Mais encore une fois, je vous dis, s'il n'y a pas un travail d'anticipation qui est fait dans toutes ces formes de violence, ça reste des groupes de jeunes, je ne sais pas combien ils étaient constitués, mais à un moment donné, si on arrive à anticiper de dire, il y a un paquet de jeunes qui partent là-bas, qui peut le faire? Moi, je vous dis, je l'ai fait 10 ans à Corbeil-Essonne avec Sartier et Tarteret, dès qu'il y avait un mouvement de groupes de jeunes qui partaient sur Évry et les Pyramides, je sifflais le rappel de mes éducateurs, je dis, hop, il y a un truc qui va se passer. Le problème, si on n'anticipe pas, la solution, elle ne passera qu'à travers les associations de proximité. Ouais. Arrêtons de penser que la police nationale ou municipale réglera tous ces problèmes, je n'y crois pas un instant.
Samuel.
Ce qui est intéressant et attristant aussi, je trouve, avec ce phénomène de rixe entre bandes, c'est qu'on a une forme de régression anthropologique. Le cerveau humain est programmé par l'évolution pour être tribal, pour donner systématiquement des gages aux groupes et être violent envers les clans rivaux. Le fait d'agir en groupe, d'ailleurs, mène souvent à l'impossibilité d'une pensée critique et à l'absence d'empathie pour celui qui est perçu comme étranger au groupe. Par exemple, dans des stades de foot, les supporters souvent sont complètement sont pleins de haine, alors que quand ils sortent des tribunes, ils deviennent respectueux et tout à fait normaux. Et dans le cas des rixes entre adolescents, c'est évidemment plus grave et beaucoup plus tragique. Et c'est justement le rôle de la civilisation de permettre le contrôle de nos pulsions les plus animales, la domestication de tous ces instincts violents. Il y a une phrase que j'aime bien de Hannah Arendt qui dit que chaque génération d'enfants, c'est comme une invasion de barbares que les adultes ont pour tâche de civiliser. Et là, clairement, je pense que le travail des adultes avait été mal effectué.
Pour vous, Yann Lamothe, précisément, vous dites que ce n'est pas une bande, mais il y a quand même un effet de groupe.
Oui, mais il faut dissocier le groupe et la bande.
Voilà.
Là, aujourd'hui, nous sommes un groupe. On n'est pas pour autant une bande. Et alors, je rejoins entièrement le discours, vos discours à tous les deux. Il y a quelques années de ça, il existait encore des clubs de prévention dans les quartiers, qui étaient cofinancés par le conseil général, et à 80-20, je crois, 80% pour le conseil, oui, tout à fait, et 20%, pas PJ. Hein.
Oui, parce que ça existe encore, ça.
Ouais, pas la PJ. La PJ,
alors, attendez, la PJ, il faut nous expliquer.
La protection judiciaire de la jeunesse.
Mais là, on passe déjà, quand on est PJ, on passe déjà un cap, on est déjà sur des jeunes qui sont repérés par le magistrat. Là, moi, je parle de prévention spécialisée. La prévention spécialisée, c'est des éducateurs de rue, des qui sont cofinancés. Donc, c'est des établissements qui étaient cofinancés 80% par l'État, 20% par les communes.
Mais pour aller dire quoi aux gamins dont on parle? Mais
justement, pour être à l'écoute déjà. Parce que quand on a des gens qui sont en proximité et qui sont dans les quartiers tous les jours, ces problèmes de tension, ils les sentent venir. Et là, on peut agir.
Ça part de rien, souvent.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Peut-être des fois.
Voir les groupes se constituer.
Et des fois, juste un coup de téléphone à la police en disant. Bon, là, je sais pas gérer. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas. Voilà, il faut être présent.
Ouais.
Là, pour le coup, on avait une voiture. Nous, quand on a appelé la police, on a eu entre 35 et 40 minutes d'attente.
Oui. Pour avoir une voiture.
Alors, et peut-être que j'exagère ce temps d'attente parce que ça paraît toujours très long. Mais c'était très long. Et ils nous ont expliqué, en fait, on a peu de voitures, on a peu de moyens et on était pris sur une autre commune. Donc, le temps. Voilà. Et on n'a plus d'éducateurs de rue. C'est terminé. Un éducateur à Coignières qui fait un excellent boulot, mais on n'en a qu'un. Et sur Morphage, il me semble qu'on n'en a plus.
Et on est dans des secteurs qui sont relativement calmes par rapport à ce qu'on peut connaître.
Cécile.
À Paris, intramuros, il existe une cellule pour la prévention justement de ces rivalités entre bandes. Et la préfecture a fait un point, pas plus tard que ce matin, c'est un hasard, du calendrier, justement, sur ce travail qui est mené en amont, justement,
BTC,
aussi.
BTC.
Pour
une brigade territoriale de contact qui appartiennent à la DESPAP.
Oui, et pour travailler justement à la prévention, ils travaillent énormément sur les réseaux sociaux aussi, parce que
absolument.
Si tout va vite et s'ils se donnent rendez-vous très rapidement, c'est parfois sur des réseaux, et c'est important de pouvoir infiltrer ces réseaux-là pour être capable d'être extrêmement réactif. Dans Paris Intramuros, il y a 45 groupes qui sont identifiés et qui sont surveillés en permanence. Mmh. Et sur l'année 2021, ce sont pas moins de 300 incidents, plus de 300 incidents, plus de 300 affrontements qui ont été recensés, avec un millier d'interpellations liées. Donc c'est vraiment loin d'être anodin comme phénomène.
Et les réseaux sociaux, vous avez raison de le dire, il y a Pharos évidemment qui existe pour recouper tous les réseaux
sociaux. Surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Dans tous les sens. Et effectivement, ces brigades territoriales de contact ont un véritable rôle. Après l'affaire du 15e arrondissement, où il y a eu des risques très forts. Donc vous voyez, si on met en place tout ce cheminement, cet ensemble d'acteurs, je vais vous dire, on peut trouver des solutions. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, nos élus attendent que le régalien règle tout et on n'y arrivera jamais.
Pauline,
je voulais réagir à ce que vous avez dit, d'assez émouvant. Quand vous êtes sortie, vous avez vu un enfant qui était par terre, et puis ensuite vous avez dit, c'est un enfant qui a frappé avec ce marteau sur un autre enfant. C'est vrai qu'on a parfois tendance à les déshumaniser quand on parle de faits divers. Et peut-être j'ai une question pour vous, est-ce que l'âge, 14 ans effectivement, c'est toujours... Est-ce que ça, dans vos 30 ans d'expérience, vous voyez plus de phénomènes de violence dans ce type d'âge-là, 14 ans, aussi jeune?
C'est l'âge, c'est le créneau d'âge, entre 12 et 17 ans. Enfin, c'est ce que je reçois moi sur ma structure, et j'en reçois quelques milliers par an.
C'est plus
mais je me suis rendu compte quand même qu'il y a une une avancée dans la violence qui est quand même inquiétante. Et je vous assure, je reçois plus de 3000 jeunes par an sur ma structure, encadrés par les policiers, par l'ancien militaire. Je peux vous assurer que la partie n'est pas toujours facile. Elle était beaucoup plus facile il y a 30 ans en arrière.
Merci Bruno Pomard, merci d'avoir été avec toi et merci beaucoup Yann Lamotte d'avoir été là. Juste un mot, l'atmosphère ces dernières heures dans votre quartier.
C'est le recueillement. Oui. Très clairement, le recueillement et la tristesse.
Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci Cécile également d'être venue nous voir ce soir en direct sur le plateau.